Est-ce une bonne idée de continuer la grève contre la réforme des retraites pendant les fêtes? Certains syndicats la maintiennent à la SNCF et la RATP. Pour les uns, c'est un excellent coup de pression. Pour les autres, c'est risquer de perdre le soutien des Français. Une stratégie osée, en tout cas, nous dira un spécialiste. Vladimir Poutine est attendu aujourd'hui à l'inauguration du pont de Crimée pour sa partie ferroviaire. Pont qui relie la Crimée à la Russie continentale. Nous ferons le point avec notre correspondant à Moscou avant d'aller en Italie chez un producteur de Prosecco, boisson star de ces fêtes de fin d'année. Les ventes explosent, mais le champagne ne craint toujours pas la concurrence. Le week-end a été difficile pour certains voyageurs qui tentaient de partir en vacances. La grève contre la réforme des retraites continue dans les transports malgré les appels à la trêve. La SNCF prévoit de faire circuler 40% des TGV aujourd'hui, 40% aussi des TER. À Paris, 6 lignes de métro sont fermées selon la RATP. Continuer le mouvement pendant les fêtes, c'est une stratégie potentiellement risquée, estime le politologue Pascal Perrineau, ancien directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po.
Ce mouvement bénéficie d'un soutien et d'une sympathie dans l'opinion à hauteur, ça varie selon les enquêtes, d'environ 60%. Et tant que derrière le mouvement social, il y a ce soutien d'opinion, il est difficile pour le gouvernement de s'en sortir facilement. Mais tout ça peut bouger, surtout que on le voit, la tendance est plutôt à l'éternisation de ce mouvement social. La période de Noël peut être un point de bascule, on le verra dans les jours qui viennent, parce que les Français, quelle que soit d'ailleurs leur position, positive, négative ou indifférente par rapport au mouvement social, sont très attachés à la mobilité au moment de Noël pour aller voir ses parents, accueillir ses enfants. Donc ce peut être l'occasion, en effet, d'une inflexion dans l'opinion et on le verra une fois que les Français seront revenus de la fête de Noël et de la fête du Nouvel An. On verra dans les premiers jours de janvier si les 60% de soutien et de sympathie qui font d'une certaine manière la force du mouvement vont fondre au-dessous de la barre de 50%.
Le politologue Pascal Perrineau, le gouvernement doit détailler aujourd'hui un programme et le calendrier des concertations sur la réforme des retraites. Les discussions reprendront en janvier. Sont également mobilisés contre ce projet les salariés des raffineries. La branche chimie de la CGT a décidé hier l'arrêt total des installations de la raffinerie de l'Avera près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Des assemblées générales devraient avoir lieu dans plusieurs raffineries aujourd'hui. Les 8 que compte la France métropolitaines sont affectées par des blocages depuis le début du mouvement, le 5 décembre dernier. Je crois qu'il est bon de savoir faire trêve, a déclaré Emmanuel Macron pendant sa visite samedi en Côte d'Ivoire. Au même moment, on a appris que le chef de l'État renonçait à sa future retraite d'ancien président de la République qui devait lui être attribuée en fin de mandat et qui s'élève à un peu plus de 6 000 euros bruts par mois. L'opposition y voit une mesure indécente, démagogique. Cette annonce ne fait que brouiller les pistes, estime le spécialiste en communication politique Jean-Christophe Gallien.
On a un peu de mal à saisir effectivement la pertinence. C'est pas parce que le président de la République renonce à un élément de sa retraite. On hésite un petit peu entre l'idée que c'est quelque chose qui apparaît comme un élément dans une période sanctuaire, Noël, et la période dans laquelle on a pénétré ce week-end. C'est une période qui effectivement est troublée par cette activité à la fois de la grève et autour de la réforme, et dont normalement, j'allais presque dire que le sanctuaire républicain normalement devrait être intouché. Donc ce qui veut dire que on comprend pas très bien ce que ce gros caillou finalement dans une mare complexe aujourd'hui, une mare médiatique, une mare politique, une mare syndicale. On est dans un contexte politique troublé et social troublé là aussi, et je ne vois pas de mon point de vue ce que ça peut venir apporter comme élément ni d'éclaircissement, ni d'intérêt pour celles et ceux qui vont voir leur système être modifié. On ne saisit pas très bien ce message qui apparaît comme quelque chose de très artificiel. Je ne vois pas l'intérêt de ce que ça peut apporter au débat, ni même apporter au cœur, ou en tout cas au sentiment, à l'affection que certains peuvent avoir, même pour lui, réalisé depuis un pays qui est évidemment un pays ami. La Côte d'Ivoire, c'est un pays avec lequel la France a des relations très fortes. Ça vient troubler finalement une partie du message, à la fois diplomatique qu'il a engagé en Côte d'Ivoire, et puis aussi de soutien aux forces armées françaises qui sont présentes sur le terrain. Donc je suis très surpris.
Jean-Christophe Gallien, propos recueillis par Adrien Palluet. 6h34, la suite du journal sur France Culture. Un an et demi après l'inauguration de sa portion routière, Vladimir Poutine va inaugurer aujourd'hui la partie ferroviaire du pont de Crimée. Il relie la Crimée à la Russie continentale. Il faudra toutefois plus de 30 heures pour parcourir la distance séparant Moscou de la péninsule. Jean-Didier Revoin.
En mai 2018, pour inaugurer le tronçon routier du pont de Crimée, Vladimir Poutine avait lui-même pris le volant d'un camion. Il y a donc fort à parier qu'il sera aujourd'hui dans la cabine de pilotage ou même aux commandes du train qui inaugurera la section ferroviaire de ce même pont. Dès aujourd'hui, fret et passagers pourront gagner directement la péninsule en franchissant le détroit de Kerch sans pour autant devoir embarquer sur un bateau. C'est la fin d'un chantier entamé en février 2016 qui aura coûté un peu plus de 3 milliards d'euros pour désenclaver la péninsule rattachée à la Russie en 2014. Fin 2014, en effet, les autorités ukrainiennes avaient fermé à tout trafic les deux voies ferroviaires reliant l'Ukraine à la Crimée, contraignant la Russie à se lancer dans la construction d'un pont maritime de 19 km, le plus long d'Europe. Dès aujourd'hui et chaque année, un total de 14 millions de passagers et de 13 millions de tonnes de marchandises pourront emprunter cet itinéraire qui place Moscou à 33 heures de la péninsule pour un trajet de près de 2000 km. Les liaisons seront quotidiennes au départ de la capitale et de Saint-Pétersbourg dans des trains à 2 étages. À terme, les autorités souhaitent faire en sorte qu'en termes de prix, le train puisse concurrencer l'avion. Depuis le 8 novembre, date de leur mise en vente, plus de 12 000 billets sont déjà partis avec un prix de départ inférieur à 50 euros au départ de Moscou comme de Saint-Pétersbourg.
La correspondance de Jean-Didier Revoin. L'information nous parvient ce matin. Un militaire américain a été tué en Afghanistan. Les talibans revendiquent l'attaque. Une annonce qui intervient au moment où Washington et les talibans tentent de trouver un accord sur un retrait des forces américaines. Une révélation de plus dans l'affaire ukrainienne. Donald Trump, on le rappelle, est soupçonné d'avoir fait pression sur le président Volodymyr Zelensky pour obtenir des informations sur son rival, le démocrate et ancien vice-président Joe Biden. D'après un courrier électronique dévoilé hier par un groupe de journalistes d'investigation, un responsable du budget américain a demandé au Pentagone d'attendre avant de verser une aide à l'armée ukrainienne, 1 heure et demie seulement après l'appel entre Trump et Zelensky. Le président des États-Unis est visé par une procédure de destitution. Il a été mis en accusation la semaine dernière pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Le Premier ministre australien, déjà critiqué pour être parti en vacances à Hawaï alors que les pompiers luttent contre des feux de forêt, Scott Morrison est maintenant accusé de ne pas en faire assez pour le climat. Il a répondu ce matin qu'il serait irresponsable, selon lui, de tourner le dos à l'industrie du charbon. « Nous n'allons pas, je cite, nous engager dans des objectifs irresponsables, destructeurs d'emplois et nuisibles pour l'économie qui sont demandés. » À l'heure des dernières courses, avant le repas du réveillon, vous mettrez peut-être quelques bulles dans votre panier, du champagne ou du prosecco italien. Pourquoi pas, les ventes de prosecco atteignent des sommets et même un record cette année à l'export. En dehors de l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne s'arrachent cette boisson. La France est 4e, mais c'est le pays où les exportations ont le plus augmenté. Bruce de Galzin s'est rendu chez un producteur.
Giorgio Pollegato produit du Prosecco dans les collines de Vénétie. C'est une histoire de famille depuis 3 générations, mais c'est Giorgio qui, il y a 30 ans, lance la maison Astoria. 70 employés aujourd'hui, 40 hectares et de plus en plus d'exportations. D'abord en Angleterre, en France aussi, plus 30% cette année. Mais pour Giorgio Pollegato, il n'y a pas vraiment de concurrence avec le champagne.
Pour faire du champagne par excellence, on utilise la méthode champenoise. C'est totalement différent pour le Prosecco, dont la fermentation se fait dans de grandes cuves en acier et pas en bouteille. C'est un produit que l'on boit jeune, frais, avec plus de sucre que le champagne. Et c'est un peu la chance du Prosecco, parce qu'il plaît à tout le monde, aux femmes en particulier. Sa consommation a explosé de manière incroyable. C'était impensable, il y a quelques années.
Son prix est aussi un atout, 5 à 7 euros. Peut-être également à la publicité d'un certain cocktail, estime Domenico Bosco, spécialiste des vins à Col di Reti, la plus grande fédération agricole.
Une des raisons du succès, c'est que le Prosecco se boit aussi à l'apéritif et que beaucoup de nouveaux consommateurs sont arrivés grâce à la mode du Spritz.
20 millions de bouteilles de Prosecco devraient se vendre en France cette année et c'est encore loin des 145 millions de bouteilles de champagne.
Le reportage de Bruce de Galzin. La Savoie est toujours en vigilance orange avalanche ce matin. Du orange aussi pour le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime. Département surveillé par Météo France pour des risques d'inondation. Le temps aujourd'hui est encore nuageux avec des averses dans l'ouest et sur le relief de la Corse. Du soleil de Marseille à Nice, vous n'aurez pas plus de 10 degrés à Lille, 11 à Paris, 12 à Lyon, 14 à Bordeaux et 17 degrés à Nice.